Dieu notre Père, merci pour ce jour béni que tu nous donnes. Nous voulons nous rendre disponibles pour toi. Nous avons besoin de toi dans ces instants pour que tu nous guides au cours de cette réunion, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Si nous vivons, c'est par grâce. Et tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Tu permets que nous puissions nous rencontrer autour de ta parole. Ces récits de notre frère Joseph passés il y a des milliers d'années, mais ces récits continuent à nous enseigner parce que tu restes Dieu qui ne change pas. Tu restes le même de génération en génération. Merci pour ta présence que nous invoquons, pour l'action du Saint-Esprit parmi nous et pour tous ceux qui vont se connecter, qu'ils soient bénis comme nous sommes déjà bénis dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Ma soeur, tu peux prendre Genèse au chapitre 41. Tu peux nous lire du verset 14 jusqu'au verset 32e.
Oui, Papa Célestin, merci. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Joseph interprète les rêves du Pharaon. Chapitre 41 de Genèse, versets 14 à 32. Le Pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph. On courut donc le tirer de sa prison, on le rasa, puis il changea de vêtements et vint se présenter devant le roi. Celui-ci lui dit, « J'ai fait des rêves, et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut t'en donner une explication satisfaisante, » répondit Joseph. Le Pharaon reprit alors, « Dans mon rêve, je me trouvais au bord du Nil. J'ai vu sortir du fleuve cette belle vache bien grasse qui se mit à brouter l'herbe de la rive. Puis, cette autre vache chétive, affreusement maigre, sortirent du fleuve à leur tour. Je n'ai jamais vu en Égypte des bêtes en aussi mauvais état. Elles dévorèrent les sept premières vaches, les vaches grasses. Pourtant, on ne l'aurait pas cru à les voir aussi maigres qu'auparavant. À ce moment-là, je me suis réveillé. Puis, j'ai fait un autre rêve. Je voyais cette beau épi bien rempli qui poussait sur la même tige. Ensuite, sept autres épis poussèrent. Mais ils étaient durs et rabougris, desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les sept beaux épis. Voilà, j'ai déjà raconté ces rêves aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me les expliquer. Joseph dit au Pharaon, « Vos deux rêves ont le même sens. Dieu vous avertit ainsi de ce qu'il va faire. Les sept belles vaches et les sept beaux épis représentent cette année. C'est donc un seul rêve. Les sept autres vaches chétive et affreuse, et les sept épis vides desséchée par le vent, représente aussi cette année. Mais des années de famine. C'est bien ce que je vous disais, Majesté. Dieu vous a montré ce qu'il va faire. Ces sept prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura sept années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saurait plus ce qu'est l'abondance. Votre rêve s'est répété sous deux formes semblables pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. Parole du Seigneur.
Oui, nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole, pour ces récits, et nous bénissons vraiment le Seigneur. Merci pour la lecture, ma sœur Pétronelle.
Merci, papa.
Donc là, nous sommes en Genèse au chapitre 41. Pardon. Hier, nous avions médité le 13 premier verset. L'introduction de ces 13 premiers versets, c'était pour nous montrer que ça a duré au moins 2 ans depuis que le grand échanson et l'autre qui était chargé de la nourriture sont sortis, le panetier. L'un est rentré à son poste. Et le deuxième a été tué exactement comme Joseph avait prêté le rêve. Maintenant, nous arrivons 2 ans après. 2 ans après, c'est beaucoup de mois, beaucoup de jours, beaucoup de semaines. Pourtant, quand les grands échansons sortaient, Joseph lui avait bien dit, « Ne m'oublie pas. » Mais notre texte s'était terminé au chapitre 40 en disant « Il a oublié Joseph ». Lui a oublié, mais Dieu n'a pas oublié.
Amen.
Voilà, là, le rêve de Pharaon arrive 2 ans après. Il va effectivement faire ce rêve en 2 temps. Il va réunir les grands, les savants, des magiciens, toute sa classe savante pour réellement qu'on puisse interpréter le rêve, mais personne n'a pas pu arriver à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette partie du monde qui est l'Égypte. En ce moment-là, les gens vont se rappeler que lui, il va même raconter à son patron que, vous savez, nous étions en prison quand il avait mal fait, il était mis en prison. Là se trouvait un jeune hébreu, esclave, bien sûr. Il était chef de garde. Alors, ils ont raconté les deux rêves, celui des chansons et celui de panetier. Et exactement, il a interprété le rêve et ça s'est passé exactement. Alors cela a poussé Pharaon à dire, faites-moi venir ces prisonniers pour que je voie s'il peut me donner l'interprétation de ces deux rêves. Alors à partir du verset 14, Nous arrivons à notre texte du jour. C'est la sortie de l'homme appelé Joseph. On le sort de la prison. Et là, nous avons tous suivi la lecture. C'est l'interprétation exacte du rêve donné à Pharaon. Mais ce qui est très important dans la façon dont Joseph gère la situation, c'est que chaque fois, il met Dieu devant.
Amen.
Il met Dieu devant. Au verset 16, il met Dieu devant. Au verset 25, il met Dieu devant. Au verset 32, il met Dieu devant. Il ne se présente pas comme le grand savant pour dire, vous savez, j'ai des compétences, c'est depuis mon enfance que j'ai toujours vu le rêve, ainsi de suite. Il n'est pas de personne. Il met Dieu devant. Voilà ce que nous allons méditer, frères et sœurs. Deux questions peuvent nous aider vraiment à approfondir. La première question, c'est la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question 5. Et y a-t-il une promesse dans le texte? Y a-t-il une promesse dans le texte? Voilà, frères et sœurs, nous allons avec ce texte extrêmement riche pour nous et commencer notre partage. Nous pouvons regarder à partir du premier verset, notre premier verset, c'est le verset 14, et nous pouvons dans un premier temps nous arrêter au verset 24 comme notre première partie. Et notre deuxième partie, à partir du verset 25, il va détailler en fait les deux rêves qui sont revenus deux fois en fait. Mais allons-y du premier, du 14e jusqu'au 24e pour que nous puissions nous édifier. Bonsoir, maman Christine.
Bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé.
Bonsoir, papa Samuel.
Bonsoir, mon frère.
Bonsoir, papa Samuel.
Oui, bonsoir, maman Petronelle.
Je viens comme si tu avais une difficulté à te connecter. Tu étais connecté, puis tu étais coupé. C'est correct?
Oui, oui.
Vraiment.
Je me suis connecté avec les téléphones.
Oh, vraiment. Ok, ça c'est la technologie qui pose des fois des problèmes comme ça.
Oh,
oui. Donc là, nous pouvons commencer. Nous avions écouté la lecture au Genèse 41, verset 14 jusqu'au verset 32e. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait commencer à partager? À partir du verset 14, nous descendons, nous prenons peut-être les points saillants, les textes longs. Si nous allons verset par verset, on risque de ne pas le terminer. Oui, maman Christine, tu peux commencer, s'il te plaît.
Merci, papa, pour la parole. Ce que j'apprends dans le verset 14 est que c'est vrai, Joseph était enfermé en prison, mais on n'a pas vu là, on avait décidé combien d'années il allait passer en prison. C'est pour dire que sa situation était incertaine. Il se demandait quand est-ce qu'il sortira de cette prison-là. Et voilà que Dieu vient briser le silence en utilisant les témoignages de l'homme qui est sorti, le serviteur de Pharaon, pour que le message puisse passer chez Pharaon et que Dieu puisse utiliser Pharaon pour briser ses chaînes, pour sortir Joseph de la prison. Alors, ce que j'apprends ici comme leçon est que la situation peut durer. Le seul qui sait comment donner la solution à notre problème, c'est Dieu. On peut faire des problèmes, on peut faire ceci, cela, du bruit, tout ça, mais le seul qui a le pouvoir sur nous, c'est Dieu. Et ce Dieu-là peut utiliser n'importe qui. Parce que je ne pense pas que Joseph pensait qu'un jour, Pharaon allait le faire sortir de la prison. Je ne pense pas. Mais voilà que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a décidé ainsi. Et voilà Joseph dehors. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui va se passer. On le verra par la suite. Merci, bien-aimé.
Oui, merci. Eh bien, il n'y a que Dieu qui connaît comment est-ce que les choses vont se dérouler. Et le temps est arrivé. Ce temps, c'est le moment fixé par Dieu.
Amen.
Dieu ne travaille pas en retard. Dieu ne travaille pas en avance.
Amen.
Dieu travaille avec le temps. Et le temps est arrivé. Là où nous allons voir, au lieu qu'on les sorte avec les habits du cachot, parce que la prison a sa tenue, on va lui changer les habits. On va le raser.
Alléluia.
Et on va le sortir en hâte pour aller, vous savez, il va aller sans audience. Il va
Alléluia.
Aller par l'autorité suprême du pays.
Alléluia.
Et ça, c'est ce que Dieu est capable de faire.
Amen.
Merci beaucoup, Papa Samuel, tu as la parole.
Oui, vous avez abordé un aspect que je voulais déjà aborder, c'est que lorsque Dieu intervient dans nos vies, il y a le changement.
Alléluia.
Le changement ici se révèle par les vêtements qu'il va revêtir. Comme vous avez déjà dit, ce ne sont plus des vêtements de prisonniers, mais les vêtements d'un homme libre.
Oui.
Donc quand la main de Dieu est sur nous, ou sur quelqu'un, l'un d'entre nous, on peut observer combien il change de situation.
Amen.
Il change d'adresse aussi. De la prison, de la prison à la liberté.
Alléluia.
On peut faire cela.
Okay.
Et comme vous avez dit, on ne rase pas la tête ici, on le rend un homme beau.
Oui.
Alléluia.
Pour qu'il soit digne de se présenter devant le roi. Mais je me dis, mais quand nous nous présentons maintenant devant le roi des rois, comment est-ce que nous nous présentons?
Voilà.
Est-ce que... mais le roi des rois, ce n'est pas les habits peut-être, mais c'est nos corps, nos cœurs, nos pensées. Comment est-ce que nous nous présentons devant ce roi? Alors, donc merci.
Merci beaucoup, Papa Samuel. Donc là, un changement intervient. C'est un changement, je dirais, un changement radical dans le sens qu'il va voir. On ne dit pas d'où viennent ses habits, mais on va tout simplement lui changer les habits parce qu'il ne va pas se présenter n'importe comment dans la présence du roi. Et je ne sais pas, on n'a pas décrit quel véhicule est venu le prendre.
Voilà.
Qui sont venus? Est-ce que Échanson était de la délégation pour les sortir ou quoi? Tout ça, ce n'est pas décrit, mais nous pouvons nous présenter combien cet homme devient important. Il se rend chez le roi. Le changement est là. Nous devons savoir nous présenter devant le roi. Notre roi, c'est le Seigneur de gloire. Nous devons... Il y a des choses passées que nous devons vraiment laisser.
Amen.
Les habits de la prison que nous devons laisser. Nous devons nous présenter devant le roi comme des personnes, de nouvelles créatures. Des personnes vraiment changées, transformées. Merci beaucoup, Sœur Petronelle. Tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, papa, pour la parole. Je vais enchaîner le 15e. Et le 16e, donc notre jeune Joseph, bien rétabli dans ses fonctions, parce que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Alors, il se présente, et là, le roi lui dit, « J'ai fait des rêves, et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient. » Donc, le roi est inquiet parce que personne lui qui est roi d'Égypte et Pharaon avec toute cette administration des devins de son pays, mais personne n'a pu donner les significations de son rêve. Alors il était inquiet et il s'adresse à ce jeune homme qui se présente, qui vient de la prison. Alors, j'ai entendu dire, voilà ce que le roi dit, j'ai entendu dire que tu es capable de donner des explications au rêve. Ah, justement, Joseph ne pouvait pas accepter cela, ne pas dire la vérité, carrément et directement, il n'a pas peur de dire, mais non, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui peut t'en donner une explication satisfaisante. Voilà déjà comment Joseph réagit pour présenter son Dieu. C'est lui qui doit passer en priorité. C'est lui que le pharaon doit connaître, que ce garçon qui traînait en prison, il a un Dieu capable.
Amen.
De donner l'explication des rêves dont personne dans tout l'Égypte n'a pu donner la signification. C'est vraiment une bonne leçon là de témoignage de notre Joseph pour montrer le Dieu d'Israël qui a la fonction, qui est le créateur et qui a la signification de toutes choses qui nous dépassent, nous les humains de la terre. Merci, je m'arrête là. C'est un exemple à suivre de glorifier notre Seigneur quand il fait des choses dans nos vies et de les témoigner. Merci.
Un grand exemple à suivre de mettre Dieu en avant au lieu de mettre sa personnalité, mais se mettre Dieu en avant. Ce que je suis ici, c'est Dieu. Ce que je vaux, tout le poids qu'on me donne, c'est Dieu. Et c'est ça que Joseph est en train de présenter. Et son interlocuteur aussi est sincère. Pharaon est sincère. Il reconnaît qu'il n'y a personne dans tout son territoire qui est capable d'expliquer. Voilà l'incapacité des hommes. Mais un autre homme, là, il se présente, il ne dit pas que c'est moi l'homme qui veut faire ça. Mais c'est Dieu qui vit en moi qui veut faire ça, qui va faire ça. Quel bel exemple à suivre. Merci beaucoup. Nous continuons notre texte. Papa Samuel, tu as encore la parole, s'il te plaît.
Merci. J'ajoute quelque chose. Je vais au verset 17 et 18. D'abord au verset que maman vient de commenter, je vois que Joseph ne s'approprie pas la gloire de Dieu. Et la deuxième chose, Dieu utilise l'impossibilité pour rendre Joseph libre.
Amen.
Parce que les sages d'Égypte, ils avaient aussi ils interprétaient aussi des songes et puis ils avaient des choses qu'ils faisaient. Mais là, ils sont devant une impossibilité. Dieu utilise ce cas-là pour que Joseph sorte. Et quand il sort de la prison, c'est pour l'élévation. Ce que Joseph avait vu beaucoup d'années avant. Bon. Au verset 17, on voit, comme vous avez dit, que le roi, ici, on peut voir qu'il est humble aussi, hein.
Ouais.
Parce qu'il ne parle pas dans le langage d'ordonner, donne-moi d'interprétation, fais ceci. Mais le roi continue, voici mon rêve, il raconte alors son rêve, comme vous avez dit, il était sincère. Et puis, je suis au bord du Nil, je vois cette belle vache bien grosse qui sort du fleuve, elle se met à manger l'herbe de cet endroit. Donc, peut-être il faut qu'on continue avec les rêves jusque plus loin. Ensuite, cette autre vache sort du fleuve après les belles vaches. Elles sont maigres, très laides et faibles. Dans toute l'Égypte, je n'ai jamais vu de bêtes aussi laides. Donc on voit Alors, les vaches faibles et l'aide dévorent les sept premières, les grosses vaches. C'est quand même difficile. On n'a jamais vu des animaux qui se mangent.
C'est ça.
Des vaches qui se mangent entre eux. On voit ce que les maigres mangent les grosses.
Les grosses, les grasses.
Bon, elles les avalent bien, mais cela ne se voit pas du tout. Enfin, là, ce sont l'impossibilité dont nous avons parlé. Les
Amen.
vaches, les rêves, c'est difficile à interpréter.
Ouais.
Comment les vaches qui sont grosses peuvent être avalées par les maigres? C'est déjà des difficultés aussi. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que Dieu utilise des songes qui sont compliqués pour que Joseph va sortir de la prison. Je m'arrête d'abord là-bas pour voir cette impossibilité. Et l'impossibilité qui réside dans le fait que jamais de mémoire d'homme on a vu des vaches se manger. Ce ne sont pas des carnivores, ce sont des herbivores.
Merci beaucoup, papa Samuel. Et même dans la complication de ces rêves, ceux qui sont maigres doivent être faibles.
C'est
Oui.
ça.
Et ceux qui sont en gros, qui doivent être, qui ont beaucoup de force et qui peuvent piétiner ceux qui sont faibles. Mais c'est
Alors,
l'inverse. C'est l'inverse, où ce sont les faibles qui avalent ceux qui sont forts. Donc ça se complique encore davantage. Oui, en tout cas, nous continuons à partir du
verset 21.
verset 21. Nous voyons, là, c'est le deuxième rêve.
Non, non, 22.
Non, d'abord 21, ils entraient dans leur panse sans qu'on puisse reconnaître qu'ils étaient rentrés. Leur aspect était aussi laid qu'auparavant. Là, c'est toujours le premier rêve qui est compliqué et dont lui-même le roi ne comprend rien. Tout son entourage, tous les savants ne comprennent rien. Et le verset 22. On va avec le deuxième rêve. Qui voudrait dire quelque chose sur le deuxième rêve, s'il vous plaît?
Oui, papa, si je peux enchaîner.
Ok, allez-y.
S'il vous plaît, papa, c'est les mamans qui signent. Au
Oui,
verset
allez-y.
21, au verset 21, il y a encore de la complication davantage. Et
Ah
les
ouais.
avale bien, mais cela ne se voit pas du tout. En effet, les vaches faibles, hein, sont aussi maigres qu'avant. À ce moment-là, je me réveille. Donc, on voit je voulais seulement dire le verset 21, hein,
Oui.
pour montrer encore la complication davantage.
Amen.
Merci.
Merci beaucoup, maman Christine, allez-y.
Oui, merci, papa. Le verset 22, 23, 24 parle du deuxième rêve. Bien qu'on a changé ici, cette fois-ci, on parle des plantes. Avant, c'était des animaux, mais c'est toujours la même idée. Il y a ces plantes qui sont, ces épis qui sont vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, qui poussent d'ailleurs après les pleins et beaux épis. Et voilà que ces épis maigres engloutissent les sept beaux épis. Et c'est pour dire que Dieu a compliqué les choses parce que c'est Dieu qui peut cacher les choses aux sages de ce monde et les révéler aux petits-enfants. Les petits-enfants ici, c'est son fils Joseph à qui il a révélé les choses parce que c'était une voie qu'il avait tracée pour que son plan merveilleux pour Joseph puisse s'accomplir. Alors, il a compliqué le rêve pour que les magiciens, tous ceux qui avaient l'habitude disons, d'interpréter les songes dans ce pays d'Égypte, ne puissent pas trouver l'interprétation et que Joseph le fasse pour que son plan puisse se réaliser. Donc, je vois ici la souveraineté de Dieu bien-aimé. Merci.
Merci beaucoup. La souveraineté de Dieu, et ce Dieu ne fait rien au hasard. Il permet le premier rêve difficile, il permet le deuxième rêve difficile. Et là, tout est raconté à cet homme de Dieu, rempli de l'esprit d'un grand Dieu vivant. Du verset 25 jusqu'au verset 32, nous nous trouvons maintenant devant l'explication du rêve. Donc là, nous pouvons attaquer la deuxième partie du verset 25 jusqu'au verset 32. Maman Pétronelle, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, papa. Je prends le verset 25. Joseph dit au Pharaon, « Vos deux rêves ont le même sens.
Amen.
Dieu vous avertit ainsi de ce qu'il va faire. » Je m'arrête un peu là. Donc, les deux rêves sont déjà expliqués et, en bref, il lui donne déjà une idée. Dieu est en train de l'avertir. En plus, nous voyons que toujours en toute humilité, Joseph met Dieu en avant. Met Dieu en avant et sa gloire en avant et sa compétence en avant pour que Pharaon, malgré toute sa majesté des rois des pharaons d'Égypte, avec toute sa cour, les intelligences de tous ces devins, qu'il sache qu'il y a un Dieu qui est en train de l'avertir de ce qu'il va faire. Or, le même sens, donc les sept belles vaches et les sept beaux épis représentent sept années d'abondance. Ça, c'est le 6e et le 26e verset. Donc, voilà, il avertit, c'est Dieu qui le dit, et Joseph enchaîne que ce que Dieu dit, c'est les sept années d'abondance. Je m'arrête là. Merci, Seigneur, de nous avertir. Parfois, nous ne faisons pas attention aux avertissements de notre Dieu. Que Dieu nous aide. Si jamais nous avons la grâce d'être avertis de quoi que ce soit, que l'Esprit Saint de Dieu nous aide à obéir. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Merci.
Allô?
Oui, je m'excuse. Je disais que Dieu parle.
Ouais.
Ce qui est impressionnant ici, c'est que Dieu a parlé à un roi païen.
Ouais.
Il va donner un message au roi païen de ce qu'il va faire dans sa nation.
Amen.
Et même là, nous verrons que ce qu'il va faire dans la nation égyptienne va sauver même le peuple de Dieu.
Mm-hmm.
Donc Dieu, c'est un Dieu qui est capable de parler aux païens, capable de parler à son peuple. Mais les deux rêves, l'explication est donnée, c'est vraiment la même chose. Apprenons à être sensibles et attentifs à ce que Dieu peut nous révéler aussi, dans notre génération, ce qu'il veut faire. Dieu peut nous révéler ce qu'il veut faire dans notre famille. Dieu peut nous révéler ce qu'il veut faire dans notre nation.
Ouais.
Merci beaucoup, Papa Samuel. Tu as encore la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, Papa Célestin. Je voulais montrer aussi dans le même texte ici l'attitude de Joseph.
Mm.
On voit que c'est quelqu'un qui parle avec respect.
Oui.
Il sait qu'il parle au roi. Il ne parle pas de n'importe quelle façon.
Voilà.
Quand bien même il connaît la signification des rêves, mais on peut noter ici sa courtoisie envers le roi, ou son respect aussi. Il appelle le roi, il appelle le pharaon mon roi. Donc, il me semble que nous devrions aussi faire des efforts pour respecter ceux qui règnent, ceux qui gouvernent, ceux qui nous dirigent à divers niveaux. Et cela peut aussi avoir même dans, à tout niveau, je dirais, que ce soit familial ou au niveau du travail ou ailleurs, avoir des regards vis-à-vis des gens qui sont haut placés aussi dans nos vies. Ici, il ne dit pas que c'est un païen, mais il sait qu'il est le roi. La deuxième chose que vous avez déjà dite, c'est le fait que Dieu révèle, je voulais dire que Dieu révèle, n'est-ce pas, sa pensée à ses serviteurs. On voit ici que Dieu ne fait pas quelque chose sans avertir en avance non plus. Mais comme vous avez dit, mais peut-être nos manières, nous ne parvenons pas à discerner le parler de Dieu. On voit qu'ici que Dieu parle, Dieu révèle ce qu'il veut faire aux gens. Et la troisième chose, c'est on voit l'universalité de Dieu, la souveraineté de Dieu sur tout l'univers, la supériorité, Dieu se révèle ici comme le Dieu suprême, comme le Dieu de toutes les nations, parce qu'il se révèle aussi, il a donné le songe à un roi païen, comme Célestin dit tout à l'heure, mais en donnant ses rêves, c'est dans le but de sauver aussi l'univers, les pays qui étaient autour de l'Égypte à l'époque, qui vont connaître la sécheresse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Samuel. Le respect, nous devons vraiment l'exercer à tout le niveau. Ne disons pas que non, parce que c'est un roi païen. Nous n'avons pas à le respecter. Nous devons, en tant que fils et filles de Dieu, exercer vraiment le respect partout où Dieu nous a placés. Ensuite, vraiment, c'est Dieu qui révèle sa pensée, c'est Dieu suprême qui est au-dessus de toutes les nations, que ce soit les nations arabes, que ce soit les nations chrétiennes, que ce soit n'importe quelle nation, Dieu est au-dessus de tout cela. Continuons. Maman Christine, je vois ta demande de parole. Allez-y.
Oui, merci, papa. C'est au verset 28, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est l'humilité de cet homme de Dieu appelé Joseph. Vous voyez ici, il n'a pas dit que j'ai dit, je fais ça, non. Il dit, alors ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, il met toujours Dieu devant tout. Donc, c'est Dieu qui a fait connaître à Pharaon, c'est pas lui, Joseph. Il n'a même pas dit que non, Dieu m'a utilisé. Non, il ne fait rien à voir avec lui-même, mais il met Dieu devant tout. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va. Je vais dire, bien aimé, ici que c'est le signe de tout vrai serviteur de Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu doit être humble. Il doit mettre Dieu devant toutes choses. Il ne va pas dire, par exemple, si tu viens chez moi, dès que je prie pour toi, la maladie va cesser. Non. Il va dire toujours, viens, nous allons prier Dieu et Dieu va te guérir. Donc, Dieu doit être au-dessus de tout. Donc, je vois ici l'humilité de cet homme de Dieu. Il y a un très bon exemple à suivre pour nous autres qui sommes serviteurs et servantes de Dieu. Merci, bien-aimé.
Un très grand exemple à suivre, frères et sœurs, depuis qu'il a commencé à parler, même quand il avait parlé à Échanson, au panetier, dans la prison, c'était toujours Dieu est capable de vous expliquer ce que vous avez vu. Devant Pharaon, c'est exactement la même chose. Depuis qu'il a commencé à parler, depuis le verset 16, le verset 25, le verset 28, le verset 32, c'est toujours Dieu. Il met Dieu avant. Quelle humilité! Quel effacement! Et ça doit vraiment nous enseigner. Pas se taper sur la poitrine parce qu'il n'y a que Dieu qui fait toutes bonnes choses en nous.
Amen.
Merci beaucoup, Papa Samuel. Tu as encore la parole.
Merci, Papa Célestin. Mais c'est quand nous commençons le verset 31 jusqu'au verset 34, Je ne sais pas si on peut les prendre ensemble.
On s'arrête à 32.
Oui, aujourd'hui on s'arrête à 32.
Ah oui, c'est vrai, on s'arrête à 32, j'ai vu dans les lecteurs, oui. Alors, mais on voit ici l'explication du rêve, de rêve là. Donc, Joseph dit, elle sera très dure, donc la famine.
Ouais.
À partir du verset, on s'est arrêté au 30 tout à l'heure, non? Non, non, à partir du verset 30, on dit, ensuite il y aura cette année, donc l'explication du rêve, de rêve.
Du deuxième.
Oui, il y aura, elle sera très dure. Ensuite, il y aura cette année de famine, et on ne se souviendra plus de riches récoltes d'Égypte. La famine rendra les pays très pauvres. Ça,
ouais.
C'est le verset 30. Elle sera très dure. Alors, on ne saura plus ce que la richesse dans le pays. Donc, on voit ici donc les rêves que l'on explique, on voit combien il s'agit de la famine.
Oui.
La famine qui va sévir dans le pays, à tel point que on ne va pas se souvenir des années de faste. Mais il y aura vraiment la paupérisation, la pauvreté, la famine, et puis le peuple ne pourra pas manger à sa faim. Donc c'est quand même, Dieu révèle cela au roi. Mais ici, on peut se demander pourquoi est-ce que on voit d'abord que c'est au roi que Dieu révèle cela. Pourquoi? Parce que le roi a l'autorité sur la population. Donc on peut voir quand même la responsabilité de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Que s'ils écoutent Dieu, ils peuvent être bénis. Et même leur gouvernance sera aussi bénie. Mais quand on se comporte autrement sans Dieu, on conduit le pays à catastrophe.
Oui.
Donc ça m'interpelle quand même sur l'état de certains états, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et même aussi en Occident.
Ouais.
Parce qu'on connaît aussi une certaine pauvreté. Ce n'est peut-être pas la pauvreté d'argent, de biens, mais il y a une pauvreté spirituelle, une pauvreté morale, une déchéance aussi de mœurs. Donc, on voit des aspects pareils que Dieu s'intéresse à ceux qui gouvernent.
Amen.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Papa Samuel, Dieu s'intéresse à ceux qui gouvernent. C'est à ceux qui gouvernent de ne pas se fier aux honneurs, de ne pas se fier aux richesses, de ne pas se fier de chercher à écouter Dieu. Parce que si on cherche à écouter Dieu, on se sécurise soi-même et on sécurise les gens pour qui Dieu vous a placé là. Il y a les gens qui pensent qu'ils se sont placés là parce qu'ils sont très intelligents, parce qu'ils sont très forts, parce qu'ils ont des armes. Mais ils oublient que c'est Dieu qui les a placés là. Et on oublie vraiment d'écouter Dieu. Ça, c'est vraiment un bel exemple de cet homme, le roi, qui cherche à écouter. On lui a dit que on lui a d'abord commencé par lui dire, vous savez que ce n'est même pas un Égyptien, c'est un étranger. Mais Dieu, son Dieu, lui révèle des choses. Et il le fait quand même venir. Ça, c'est déjà une très grande humilité. Il y en a d'autres qui peuvent dire, mais qu'est-ce que vous me dites là? Vous pensez que moi, je peux me fier à un étranger? Comment je vais me fier à un étranger? Je dois continuer à chercher les nationaux pour trouver. Pourtant, Dieu peut parler même au travers des étrangers.
Amen.
Voilà, nous cherchons vraiment à atterrir. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur la façon dont le rêve est interprété, et même là, avec vraiment une très très grande répétition, le verset 32, une très grande répétition. Maman Pétronelle, tu as la parole.
Merci. Nous avons déjà entendu beaucoup de ce que l'explication de ce rêve, comment le pays va souffrir, mais je suis attiré, mon attention est attirée par la grandeur de l'amour de notre Dieu pour ce peuple d'Égypte. En prenant soin d'avertir, parce que la nature même de l'Égypte a la capacité de donner l'abondance. Parce que le mot abondance est là à plusieurs reprises, et cette abondance-là est dans la nature, dans ce que le pays peut produire pour prévenir cette famine qui va durer aussi 7 ans. Alors, je suis vraiment touchée par la grandeur de l'amour de notre Dieu pour l'humanité. Parce que le roi d'Égypte est païen, mais il est quand même averti par les songes que Dieu lui-même va donner l'explication à travers son interprète Joseph. Et en même temps, je suis encore ravie de voir comment Dieu confirme le don qu'il a placé dans ce garçon Joseph. Et depuis des années, depuis sa jeunesse, il avait eu des songes. Et aujourd'hui, Dieu est en train de confirmer qu'à travers ce garçon, il donne les explications pour que ces gens qui gouvernent cette terre que Dieu nous a donnée puissent faire un peu le nécessaire de prévenir la famine et les temps durs qui peuvent arriver pour ne pas envoyer toute l'humanité à la catastrophe. C'est la grandeur de l'amour de Dieu qui m'attire. Et je loue Dieu pour cela. Merci, Seigneur.
Merci, voilà. Seigneur. Ça, c'est vraiment la grandeur de l'amour de Dieu qui est capable de s'intéresser même à une nation païenne, lui révéler ce qui va arriver, tout simplement le but, non seulement qu'il veut prendre soin de cette nation, mais il veut prendre soin du monde. Parce que presque le monde va courir pour réellement s'occuper de comment gérer la famine qui va venir. Nous allons chercher à atterrir. Pasteur Samuel, tu vas être le dernier intervenant ce soir.
Ok. Merci beaucoup. Mais je voulais ici relever le fait que quand Joseph explique ses rêves au roi, il montre l'imminence de ce qui va arriver. C'est pressant, c'est pas lointain, mais c'est déjà là. Il dit, c'est Dieu qui a décidé tout cela, et il va bientôt les réaliser. Donc on voit ici l'imminence, ce que c'était imminent, la réalisation de ses rêves. Donc le roi devrait en tenir compte. Encore une fois, comme nous avons dit plus loin, on voit toujours c'est Dieu qui a décidé. Alors je me dis, mais ici, Joseph est un bon exemple de témoignage. La manière dont il témoigne Dieu ici, il parle de Dieu. Donc on peut compter, comme vous avez fait tout à l'heure, dans presque chaque verset, un verset sur deux, contient « C'est Dieu qui a décidé.
Oui.
Dieu t'a montré. connaît ses rêves. Donc, on voit ici qu'il témoigne son Dieu d'une manière simple, mais efficace. Je crois que ça me pose aussi des questions. Quand je cause avec des gens, comment est-ce que je présente le Christ? Comment est-ce que j'agis? Est-ce que j'ai saisi des occasions qui me sont présentées pour dans mes entretiens, des entretiens avec des gens, des conversations avec des gens? Est-ce que j'ai saisi des occasions pour présenter le Christ, pour parler de Dieu? Donc c'est quand même un modèle de témoignage, un modèle d'évangélisation passive, pas évangélisation agressive, hein, mais l'évangélisation dans laquelle on met l'accent sur Dieu. Moi je dis parfois, nous, au lieu de parler de Dieu, nous parlons de nous-mêmes. C'est pas efficace. Merci beaucoup. Donc j'ai pas de l'imminence. Et puis, des témoignages.
Merci beaucoup. Ça, c'est un homme qui nous montre vraiment un très, très grand exemple des opportunités qu'il utilise. C'était un garçon, vraiment, qui pouvait être un garçon aigri.
Oui.
Il pouvait être vraiment, c'est vrai, ici, il est déjà dans une trentaine d'années. Parce que, est-ce qu'il est déjà dans la trentaine?
Oui,
non.
Oui. On a dit ça au verset 46, papa.
Oui. Il est déjà un adulte.
Oui.
Il est déjà un adulte. Et nous verrons vraiment comment ce garçon va du début jusqu'à la fin profiter et présenter son Dieu. Il sait que Dieu n'agit rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Et il n'y a que Dieu devant. C'est Dieu qui a arrêté. C'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui s'est hâtera d'exécuter. Ça c'est vraiment un bel exemple à suivre, frères et sœurs. Voilà, nous nous arrêtons là. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la gloire de Dieu que nous ne devons pas porter. Nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui accomplit toutes choses en nous. Des choses difficiles, nous devons lui demander pour qu'il nous les révèle. Et cherchons à écouter Dieu encore aujourd'hui. Cherchons à respecter ceux qui sont placés devant nous. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin de notre respect. La souveraineté de Dieu, Dieu dans toutes les générations, il cherche à sauver, il cherche dans son amour à bénir, à faire du bien. Et c'est ce que nous voyons au travers ce texte. Et c'est comme ça que Dieu agit encore aujourd'hui. Voilà, rapidement, maman Christine, tu peux nous lire les commentaires dans le pain du jour?
Oui, papa. Oui, le titre c'est « Du cachot au palais ». En un temps record, l'heure de Dieu a sonné. Il n'y a plus à traîner. Joseph abandonne son vêtement de prisonnier avec l'indignité qui y est rattachée et enfile un habit convenable digne du palais d'Égypte. Quand Dieu intervient dans nos vies pour nous apporter sa solution, c'est souvent de manière rapide et inattendue. Alors, pourquoi s'agiter et se presser? Attendons toujours le temps favorable. À Dieu seul la gloire. Alors qu'il recouvre sa liberté, Joseph ne veut pas faire son propre éloge pour ne plus retourner en prison. Il met Dieu en avant et lui donne toute la gloire à tous les niveaux. Il ne revendique aucune compétence, aucune habileté personnelle. Vous arrive-t-il de vous appuyer sur vos compétences et qualités personnelles? Lisez Deutéronome 8, verset 7 à 18, et puis 1 Corinthiens 4, verset 7. Témoignez de Dieu. Joseph rend témoignage de son Dieu devant le Pharaon et ses devins. Il leur présente l'Éternel comme le maître des temps et des circonstances. leur montrant ce que Dieu a décidé pour l'avenir de l'Égypte. Comment saisissons-nous les opportunités que nous sommes qui nous sont offertes pour témoigner de notre Dieu devant les grands de ce monde, devant les incroyants? Fidélité dans l'épreuve. Toutes ces années d'épreuve n'ont pas émoussé la foi de Joseph. Même l'un de ses parents, il n'a ni oublié ni perdu sa confiance au Dieu de Jacob, son père. Bel exemple de pitié et de fidélité dans les épreuves. Vérité, l'humilité précède la gloire. Amen.
Amen. L'humilité précède la gloire. Le texte de demain, c'est pour continuer du verset 33 jusqu'au verset 45e. Et continuons à prier pour le camp biblique. Quand nous avons invitant des gens à ce camp biblique, ensuite, si nous avons des possibilités d'avancer déjà notre logement et la nourriture, n'attendons pas le dernier jour. Voilà, frères et sœurs. Papa Samuel, veuillez prier pour nous recommander la grâce du Seigneur.
Ok, merci, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que comme Joseph, il nous arrive que tu nous délivres de telle ou telle tracasserie de la vie. Et quand c'est le temps, tu le fais d'une manière qui nous étonne. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela. Seigneur, aide-nous à t'écouter. Aide-nous aussi à te servir avec humilité, comme cet homme, Joseph, t'a servi. Mais aussi, aide-nous à écouter comme Pharaon a pu écouter Joseph. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu nous révèles que rien n'arrive sans que toi, le Seigneur des armées, ne puisses nous les montrer, nous les révéler. Merci de te révéler à toutes les nations, à la personne de ton Fils Jésus aujourd'hui. Aide-nous à être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Nous voulons te recommander nos familles respectives, Seigneur, pour que tu nous viennes en aide dans de diverses situations. Que toi, le Dieu de Jésus-Christ, tu continues à agir davantage et que tu nous enrichisses aussi dans la connaissance de ton Fils Jésus pour mieux te servir. Bénis et bénis cette œuvre de FIMES. Fais, Seigneur, que cela puisse encore davantage avoir de l'impact à travers le monde. Et merci, Seigneur, pour notre camp biblique bientôt. Nous nous reverrons. Nous nous verrons avec des frères et des sœurs. Nous voulons te recommander ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui à cause de diverses occupations. Que tu sois avec eux, Seigneur, et que tu les bénisses. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la prière. Papa José se porte de mieux en mieux. Continuons à prier pour lui.
Gloire à Dieu.
Le frère Paul Bonny est en déplacement d'Edmonton à Calgary. C'est lui qui va apporter la parole à notre église aujourd'hui.
Wow.
Il n'est pas là. Donc, prions pour lui aussi. Voilà, Amen. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Amen.
Amen. Amen. À demain.
À demain.
Vous n'êtes pas encore parti au culte.
Oui, je suis en train de partir maintenant.
C'est ça, je m'en doutais.
Oui.
Ok. Allez, salut tout le monde.
Amen. Bye-bye.
Bye.